Seigneur, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dieu veut que notre fruit puisse demeurer. Et le fruit, nous allons le voir dans le ciel. Les âmes que nous allons côtoyer, à qui nous allons parler de Jésus, notre témoignage, notre façon de servir, notre façon d'être, notre habitation. Nous sommes une habitation de Dieu ensemble, bien sûr. Nous sommes un temple, chacun pour sa part. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et je vais devoir rendre compte pour la vie que j'aurai menée. Et Dieu veut que nous portions du fruit. C'est sa volonté. C'est comme ça que Dieu va être glorifié. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres déjà préparées. Et c'est extraordinaire, c'est merveilleux de savoir qu'il y a des œuvres préparées. À la fois, il y a des efforts à fournir. Nous devons être revêtus de force. C'est vrai que, mais Dieu donne la force, Dieu donne la capacité. Des fois, on se sent complètement incapable de faire quoi que ce soit. Mais le principe, c'est que nous portions du fruit. Alors, nous avons tous des habitudes. Oui. Ah oui, d'accord. Je vais peut-être prendre celui-ci, alors, si vous voulez. Voilà, alors, on a tous des habitudes de vie. Certaines sont charnelles, d'accord. Je vais le prendre près de moi. Regardez, je vais le prendre près de moi. C'est le problème. Des fois, je mets une carte. Voilà, merci frère, merci. De même. Voilà, nous avons tous des habitudes de vie. Nous avons tous des habitudes de vie. Certaines sont charnelles et d'autres sont spirituelles, j'espère. Hein? Et ce que Dieu veut, c'est remplacer un certain nombre d'habitudes. Même si certaines n'ont pas été forcément mauvaises, tout n'est pas mauvais, dans le monde tout n'est pas mauvais, mais quand même il y a des habitudes que nous avons acquises par l'esprit du monde duquel nous provenons, d'accord ? Et Dieu veut remplacer tout cela par des nouvelles habitudes, peut-être pas tout, hein, quand je conduis la voiture, parce que je conduis depuis longtemps, j'ai une certaine habitude de passer les vitesses, je vais à l'école, je vais à mon travail, voilà. Il y a des bonnes habitudes que je n'ai pas besoin forcément de changer. Mais il y a des habitudes sur la vie pratique, bien entendu, hein. Et les nouvelles habitudes ne peuvent être mises en place que par un changement de mentalité. Ce que Dieu, c'est créer un changement de mentalité dans nos vies, basé sur les promesses de la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle est reçue et intégrée à nos vies, eh bien, c'est vraiment incorporé. C'est comme quand on mélange à la farine de l'eau et bien sûr du sel, mais aussi ce qui va faire la... comment ? La levure qui va faire gonfler. Mais là, on ne sait plus rien dissocier. On ne sait plus dissocier la farine de l'eau, du sel, une fois que c'est mélangé. Et voilà, la parole de Dieu, elle va imbriquer notre vie. Elle va s'intégrer à notre vie pour changer notre façon de voir les choses. Notre manière de raisonner sur la vie. Le sens de notre vie, mais pas seulement philosophiquement, mais d'une manière pratique. Nos habitudes de vie vont complètement être modifiées. Elles ne sont peut-être pas toutes les mêmes, hein. Nous ne sommes pas tous coiffés de la même manière que le premier de Corée du Nord, hein. C'est pas ça que je veux dire. Nous avons chacun des personnalités que Dieu respecte profondément, et Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Il va y avoir des habitudes transformées. Alors, c'est vrai que les habitudes, une définition, ces actions sont ancrées en nous par leur constante répétition. Des habitudes, c'est ce qui est ancré en nous, il y a un ancrage, par la répétition. Ce sont des choses que nous faisons sans devoir y penser. Cela fait partie de notre vie de tous les jours. Nous les accomplissons presque automatiquement, mais avec habileté et précision. C'est devenu notre style de vie. Et c'est pourquoi
Il y a des habitudes qui vont devoir, évidemment, changer. Ce que je faisais avant de connaître Christ et ce que je fais maintenant, il y a des différences. Il y a des choses que je ne fais plus, des choses que je fais que je ne faisais pas. Il y a des choses qui sont transformées dans ma vie. Et c'est très important de laisser le Saint-Esprit venir faire son œuvre. Alors, on ne va pas prendre toutes les habitudes chrétiennes, d'accord, que nous sommes censés avoir, mais on va voir plusieurs choses intéressantes aujourd'hui. Voilà. On va voir une habitude extraordinairement puissante et merveilleuse. C'est ce que nous avons fait avec Hansa Price. C'est louer le Seigneur en toutes circonstances. Ah, quelle habitude extraordinaire. C'est pas une habitude que nous avions, ça. Louer Dieu et adorer Dieu, nous étions peut-être complètement étrangers à cette manière de faire. Et Dieu veut nous appeler pour que nous puissions être des adorateurs en esprit et en vérité. Extraordinaire. Et c'est quelque chose qui va se recevoir parce que nous allons le mettre en pratique, nous allons le vivre. Nous allons réaliser, et bien sûr, qu'est-ce qui peut permettre que nous puissions louer Dieu et l'adorer ? C'est de l'avoir rencontré. Parce que si nous ne l'avons pas rencontré, je ne suis pas forcé de louer Dieu, je ne suis pas obligé. C'est pas parce que j'ai une ambiance ou je me sens bien. Ce matin, on se sent bien, il y a une bonne ambiance, l'Esprit Saint. Mais c'est pas parce que je me sens bien seulement que je vais louer Dieu. Parce que Dieu m'a changé, m'a interpellé à 23 ans. J'ai rencontré le Seigneur. Et il y a eu un tel changement dans ma vie, dans cette relation avec Dieu que j'avais jamais connue. Dieu est venu me chambouler dans ma vie. Il y a une révolution. Toutes les révolutions ne sont pas mauvaises. Il y a des révolutions qui font beaucoup de sang. Mais là, c'est une révolution d'amour qui a transformé ma vie. Comme le fameux livre qui s'appelle « Cet amour qui m'a guéri ». C'est vrai, l'amour nous guérit. L'amour et l'amour du Père, quand il nous guérit. Là, c'est extraordinaire. Il y a un point de nouveauté, il y a une vie ancienne, et puis il y a un moment où on repart à zéro. C'est marrant, hein? Donc j'ai passé 23 ans dans le monde, en faisant tout ce que les gens font dans le monde, d'accord? Enfin, peut-être pas tout, hein, une partie, sans doute. Et puis, il y a eu vraiment cette relation avec Dieu, la relation avec le Dieu vivant, est en relation avec le Christ qui est vivant. Il est vivant. Et ce qu'il veut vraiment, c'est vivre en vous, vous faire connaître qu'il est vivant. Parce qu'on peut croire, oui, on dit ça, oui, c'est écrit dans la Bible, il y a des gens qui disent ça dans les églises. Mais je veux le vivre, personnellement. Et quand on le vit, ben oui, c'est plus une question de doute ou d'incertitude ou quoi que ce soit. Quand nous vivons quelque chose, nous le savons. Je sais que je le sais. Et si je sais ce que je sais, et que je le sais parce que je le vis, je l'expérimente. C'est quelque chose qui a transformé littéralement ma vie. Et mon cœur a été guéri. Mon cœur était comme un vase brisé par toutes sortes de bêtises, peut-être tout ce qu'on m'a fait comme mal, et mes propres erreurs encore plus, et ce vase était démoli. Et qu'est-ce que Dieu fait? La chose qu'il fait, c'est nous soigner. On est à l'hôpital de l'amour de Dieu, il nous transforme, il nous guérit, il nous pardonne, il nous purifie, et il met de nouvelles pensées, afin que nous puissions acquérir de nouvelles habitudes. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, bien sûr, c'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est que nous soyons sauvés, que nous allions auprès de lui. Il nous prépare déjà une place afin que là où il est, nous y soyons. Donc il y a un but extraordinaire, c'est que nous participions à sa gloire. Il veut tout participer. Il veut nous faire participer à tout, pardon. Il veut nous faire participer à sa gloire, à l'héritage avec les saints, dans la lumière. Dieu a un royaume, et ce royaume, il est extraordinaire. C'est pour ça que je vous parle des principes du royaume, parce que c'est fort important. Hein. On est passé d'un royaume à un autre, du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. C'est extraordinaire. Au royaume du Fils bien-aimé. Il nous a accueillis comme des bien-aimés. Nous sommes tous ses bien-aimés. Sans exception, c'est pas un club. Nous sommes tous invités à entrer dans cette relation. Et donc, ce que je disais, les chrétiens qui portent du fruit sont reconnaissants en tout temps. Ceux qui portent du fruit, c'est une habitude qui va les marquer, c'est qu'ils sont reconnaissants. La reconnaissance, il n'y a pas assez de reconnaissance dans ce monde. Je ne parle pas encore de la reconnaissance que vous pouvez avoir par rapport à d'autres, mais reconnaître Dieu dans votre vie, dans vos voies. D'accord? Sous cet aspect-là. D'avoir de la reconnaissance pour ce qu'il fait pour vous. Pour ce qu'il a fait, même quand vous n'étiez pas encore à lui. Il était déjà aux petits soins, même si vous avez beaucoup de problèmes et que vous avez beaucoup souffert, je ne dis pas, mais il était déjà là, d'accord? Et il est encore là. Et là, vous le savez. Là, vous avez compris. Là, vous lui avez donné votre cœur, votre vie. Certains n'ont pas encore fait. Mais peu importe, le Seigneur est là, il vous attend et il veut vraiment vous recevoir. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, dit ceci, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est la volonté de Dieu qu'on puisse rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire le remercier, hein, lui rendre vraiment honneur par une véritable reconnaissance. Vous savez que les bénédictions, là dans Deutéronome 28 à 29, on voit les malédictions et les bénédictions. Et un des aspects dans la malédiction, c'est de ne pas, pour Israël, avoir reconnu les bontés de Dieu. Ils n'ont pas reconnu comment Dieu leur avait pourvu, les avait bénis, combien ils avaient été choyés par Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas reconnu, parce qu'ils n'ont pas eu de reconnaissance, alors il lui aurait arrivé des choses. Donc, ici, je ne suis pas en train de dire qu'on va être maudit, etc. C'est Dieu nous incorpore dans sa bénédiction. Le fait de ne pas le connaître, ce serait une forme de malédiction. Le fait de ne pas le reconnaître, ce serait donc triste aussi. Hein. Parce que Dieu donne à ses enfants, ça ne vient pas du hasard, ça vient pas. Hein, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu a créé le monde et ils passent une vie en étant bénis aussi, d'une certaine manière. Ils reçoivent aussi. Et puis, ils ont passé une vie à ne pas reconnaître. C'est triste. Et ça, c'est quelque chose qui se termine mal. Et Dieu veut le contraire. Dieu veut vous bénir. Il veut nous bénir. Et donc, le reconnaître en toute chose, c'est important. La reconnaissance est la réponse du croyant à Dieu et à Jésus. Et bien sûr, je ne peux pas rendre grâce à Dieu pour le mal qui m'arrive. Quand il m'arrive des problèmes, je ne vais pas dire merci pour cette épreuve, merci pour... Ça va être difficile, non? Mais merci parce que toi, tu as une solution. Seigneur, tu as une solution pour tel problème, telle difficulté que je peux avoir à quelque niveau que ce soit. Pas te remercier spécialement parce que j'ai mal, hein, parce que Dieu, c'est pas lui qui est l'auteur du mal, d'accord? Hein? Mais Dieu veut vraiment nous en sortir. En toute chose, c'est pas pour toute chose, mais c'est en toute chose, nous rendons grâce à Dieu. En toute chose. Nous remercions Dieu pour les réponses qu'il va nous donner. La gratitude, c'est le berceau de l'adoration. Hein? Donc, les actions de grâce, c'est comme ça qu'on fait. Hein? Dans la louange, c'est ça. On veut arriver, peut-être, ça on devrait déjà le faire chez soi, demander pardon pour nos péchés, d'accord ? Être propre, être pur quand on vient devant Dieu. Hein? On ne va pas d'abord tomber à genoux pour confesser nos fautes, mais ça pourrait arriver hein, dans nos cultes. Ça pourrait arriver. Ce serait une très bonne chose. Ça veut dire que le Saint-Esprit agit. Hein? Et mais une chose qui va plus loin, c'est de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ça, c'est la louange. Nous louons Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Et puis, nous entrons dans le lieu très saint de l'adoration. Nous entrons dans le lieu de la gloire de Dieu. Il veut être glorifié. Et je crois que c'est tellement important. Voilà. Donc, c'est... Quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, eh bien, que nous puissions vraiment rester dans un esprit de gratitude, rendre grâce à Dieu. C'est ce qu'il demande. Même quand on prie, la première chose quand on prie, on remet ses besoins à Dieu, comme Philippiens le dit, hein, oui, Philippiens 4-6, on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il va faire. Alors, le principe de la reconnaissance, nous pouvons remercier Dieu pour le salut qu'il nous a donné, pour la délivrance, la guérison, pour les bontés de chaque jour, la réponse à nos prières. En toute occasion, favorable ou non, nous savons qu'il y a des occasions qui ne sont pas toujours favorables pour le remercier, mais pourtant, Dieu nous demande de le faire. D'accord ? C'est pas toujours facile, mais faisons-le. Malgré la tristesse du décès, dans des circonstances pénibles, on se rappelle l'histoire d'Israël, et c'est important de se baser sur les promesses de Dieu, parce que nous avons des psaumes qui nous encouragent à le louer malgré les souffrances. Dieu est celui qui nous console dans la maladie. Nous louons parce qu'il demeure le même, il peut nous guérir, et ou alors nous aider à traverser ce moment difficile. Dans l'épreuve d'un couple qui va mal ou qui a connu l'échec, la séparation, même le divorce, bien, nous devons apprendre aussi à louer Dieu. Difficile, hein? Quand on a connu un échec cuisant dans la vie, ce n'est pas simple de se relever, ce n'est pas simple mais c'est un apprentissage. Hein? J'ai un accident aujourd'hui en voiture, par exemple, ben, j'apprends à louer Dieu le plus directement possible. Hein, j'apprends, si j'apprends demain que j'ai le cancer, ben, je loue le Seigneur. Si après-demain il y a quelqu'un de ma famille qui décède, mais c'est pas pour ces choses-là, mais en toutes circonstances. Vous comprenez la grande différence. La grande différence, elle est là. Même si nous perdons notre travail et que nous ne voyons plus nos possibilités d'avenir, nous pouvons louer Dieu. Lui, il a la solution à toute chose. Alors, les chrétiens qui portent du fruit, vous savez quoi? Non seulement ils louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur, ils remercient le Seigneur en toute chose, mais ils sont dans la joie. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne sont pas fixés sur leurs épreuves, leurs problèmes, et leurs yeux sont fixés sur Dieu. Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est vraiment un ordre, un impératif du Seigneur, c'est de se réjouir en lui. Se réjouir en lui. Alors ça ne dépend pas des circonstances. Et c'est une question de foi. C'est une question de savoir qui est Dieu, de le connaître, et d'avoir expérimenté ses grâces. Nous savons que si Dieu nous a conduits jusqu'ici, il va continuer dans notre vie. Il ne va pas nous laisser tomber. Hein. S'il était fidèle jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'aurais peur pour demain? Il était fidèle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment un signe qui distingue les chrétiens qui veulent être efficaces, qui veulent porter du fruit, c'est la joie du Seigneur, en regardant par la foi à Jésus et non à l'épreuve et la difficulté. En tout temps, la joie, c'est un fruit de l'esprit, elle est le fruit de notre esprit régénéré par le sang de Jésus, elle est une force qui surgit de notre être renouvelé, c'est une puissance qui nous donne la victoire. Une puissance qui nous donne la victoire, la joie. La joie du Seigneur, c'est une force. Apprenons à développer cette joie. Néhémie 8, verset 10, vous connaissez certainement ce verset. Donc Néhémie disait aux Judéens, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » La joie de notre Seigneur sera votre force. La joie de Dieu, la joie du Seigneur, c'est notre force. Si on a compris cela, si nous regardons à lui, il va faire des choses extraordinaires pour nous. Et cette joie nous transportera et nous permettra de conserver la victoire. Il y a des nouveaux horizons pour nous. Et si le diable ne peut pas nous voler cette joie, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, des circonstances, des problèmes qui voudront subtiliser notre joie tous les jours, à partir du lever jusqu'au soir et pendant la nuit. D'accord? Des fois, nous sommes assaillis par des doutes, par des questionnements, par des flashbacks qui nous reviennent comme ça, par des craintes par rapport à l'avenir, par rapport à des trucs qu'on n'aurait pas fait, pas dû faire, ou quoi que ce soit, peu importe, culpabilité et autres, et l'ennemi vient avec toutes ces choses, pour nous déstabiliser, pour que quand le matin on se lève, on soit déjà mal, on soit déjà pas bien, et prenons la victoire. Prenons du temps avant de dormir, afin que le Seigneur mette sa paix en nous, ses pensées pendant la nuit, afin que quand on se lève, on soit déjà plus fort pour prendre la victoire. C'est sûr qu'on sera de toute façon attaqué, hein. Ne vous en faites pas. Si nous servons le Seigneur, si nous suivons le Seigneur, si nous faisons l'œuvre de Dieu, si nous voulons suivre les voies de Dieu dans notre vie, nous serons attaqués. Hein? Ça, c'est clair. Voilà, la joie est une des habitudes qui distingue les chrétiens efficaces, des chrétiens qui portent du fruit de ceux qui sont médiocres. Hein, personne ne veut être médiocre ici. Hein. Donc tout le monde veut porter du fruit, je présume. Hein. Et donc ça, c'est une marque. C'est la joie. Alors, les chrétiens qui portent du fruit, bien sûr, et ça c'est une troisième chose, j'aurais pu en choisir d'autres, mais eh bien, ils fréquentent l'église locale. On parle pas toujours de ça, tous les cultes, mais c'est important, cette notion-là est très importante. Vous savez quoi? Porter du fruit, ça va se faire au niveau local. Quand on est fidèle dans une église, on va pouvoir avoir des responsabilités, on va vous faire confiance, et au travers de cette confiance, des choses plus importantes vont vous être confiées. Par contre, si nous sommes comme des papillons qui papillonnons à toutes les fleurs, qui allons butiner de gauche et de droite, eh bien, personne ne va pas nous faire véritablement confiance, et encore moins, je vais dire, ceux qui sont à l'extérieur des églises, qui ne les fréquentent même pas. Donc, c'est important d'être à un niveau local. C'est vrai qu'on appartient à l'église Ecclésia, et l'Ecclésia, c'est l'église du Seigneur partout sur la terre, et c'est formidable d'avoir toutes les nations qui peuvent être réunies pour glorifier Dieu, etc., de différentes nationalités. C'est beau, c'est magnifique. Hein? Mais ce que Dieu veut aussi, c'est que, quelles que soient nos nationalités, hein, on puisse être localement, appartenir à une église locale. C'est important, que ce soit à Paris, que ce soit à Baudelaire, que ce soit à Namur, que ce soit à Liège ou à Tokyo, peu importe, mais que nous puissions véritablement appartenir à une église locale. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 18, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Voilà. Et je crois que c'est important. Parce que dans l'église locale, c'est comme ça que nous allons apprendre à servir Dieu. Hein? Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et cette persévérance se faisait les uns avec les autres. C'est ça l'Église. C'est les uns, les autres, les uns avec les autres. C'est ça l'Église locale. Les uns avec les autres, ce n'est pas seulement avec mon smartphone ou ce n'est pas seulement avec Internet devant l'ordinateur. Et voilà, donc c'est important que je puisse persévérer vraiment dans l'enseignement, dans la communion fraternelle dit un ensemble de chrétiens, et dans la fraction du pain également, et dans les prières. C'est tellement important de prier les uns pour les autres. Certains disent, je n'ai plus besoin de l'église locale ne m'intéresse pas, maintenant avec Internet j'ai tout ce qu'il me faut, hein. Je peux lire, entendre et voir les enseignements que je veux, et c'est l'église à la carte. Je choisis ce que j'ai envie de lire, le thème. Ah, si c'est un thème qui m'intéresse, je le prends. Si c'est un thème que j'aime pas, je zappe. Mais quand je vais à l'église locale, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un sermon que Dieu a préparé pour vous, et vous allez l'écouter, que vous aimiez ou que vous aimiez pas le thème. Et ça, c'est une grande différence déjà, hein, d'accord? Vous allez écouter ce que le Seigneur veut vous dire. Et voilà, donc l'ennemi, la mentalité du monde veut vous éloigner de l'église locale, c'est évident. Il y a des gens qui se font baptiser dans l'église et puis on ne les voit plus. Quelque temps après, on ne les voit plus en espérant qu'ils reviennent, mais on ne sait pas toujours, mais il y a quelque chose que l'adversaire fait. Il y a un travail de sape que l'ennemi fait quelque part dans le monde spirituel et dans la vie de ces personnes. Nous allons vont à combattre dans la prière pour les âmes, parce que ça c'est notre amour pour elles. Mais on sait qu'il y a des stratégies qui sont mises en place pour déstabiliser les nouvelles personnes qui viennent vers le Seigneur. Mais c'est important de venir dans l'église locale pour recevoir tout l'encouragement et les forces dont nous avons besoin, les forces nécessaires. Et Dieu nous fera aller plus vite que tout seul, d'accord, avec les frères. Il y aura une parole qui va être donnée, un don spirituel qui va se manifester. Dieu va nous parler spécialement. C'est vrai que Dieu pourrait nous parler chez nous, tout seul. Dieu peut parler par le Saint-Esprit, peut nous parler par la parole. Mais on ira toujours plus vite au travers de l'Église. Et la véritable croissance se passe quand on est fidèle dans une Église locale. Là, il y a une véritable croissance. Souvent, ceux qui quittent les Églises régressent. Ils pensent faire du statu quo. En fait, ils sont en train de régresser. Hébreux, chapitre 10, versets 24-25, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, n'abandonnons pas notre assemblée, c'est important. Ni l'Ecclésia générale, l'Église, je vais dire de tous les rachetés, ni l'Église locale à laquelle Dieu veut que nous appartenions également, que nous puissions servir pratiquement. Alors, la Bible est pleine d'exhortations qu'il nous est impossible d'accomplir tout seul, bien sûr, tous les versets où il s'agit des uns et des autres, à peu près 59 versets nous parlent de cela. Et est-ce qu'on a déjà essayé d'aimer, de s'aimer, avez-vous déjà essayé de vous aimer les uns les autres tout seul? Vous aimez les uns les autres tout seul? Difficile, hein? Difficile. De vous instruire les uns les autres tout seul. C'est difficile aussi. De vous supporter les uns les autres dans l'amour tout seul. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont difficile peut-être de se supporter eux-mêmes. Mais enfin, de vous soumettre les uns aux autres tout seul. Alors, il y en a qui aimeraient bien se soumettre uniquement à eux-mêmes. Mais non, la mise en pratique, c'est de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. De porter les fardeaux les uns des autres tout seul. Si je suis tout seul sur mon île, je ne vais pas porter les fardeaux des autres et les autres ne pourront pas porter mes fardeaux. Hein? Voilà, donc un chrétien ne peut pas être très efficace et porter du fruit tout seul. Voilà, c'est la conclusion qu'on peut donner. Hein? Et l'église locale, c'est le lieu où on grandit. Sans elle, on stagne. On régresse, c'est ce qu'on vient de dire. C'est pas possible d'avancer. Même si, dans l'église locale, tout n'est pas parfait. Hein, nous sommes des imparfaits. Nous sommes venus au Christ tel que nous étions. D'accord? Alors, Dieu est en train de travailler dans nos vies, et je pense qu'il va travailler jusqu'au bout. Hein. Il n'y a personne qui peut dire, « Ah, moi, je suis arrivé, je suis un saint, je suis parfait, je suis comme Dieu veut. » On est dans un état de sanctification, je l'espère, dans un état de perfection, mais on fait encore plein de boulettes. Mais bon, avec la grâce de Dieu, Dieu nous pardonne, hein, parce que la volonté est là de faire plaisir à Dieu. Et quand la volonté n'est pas là, évidemment, c'est plus difficile. Mais Dieu nous pardonne. Dieu est capable de nous pardonner si nous repentons, hein, que ce soit volontairement ou involontairement. Nous avons à passer par la croix, demander pardon. Hein, à être purifié, et puis on se remet debout, et on avance, on continue à avancer. Hein. Des fois, on a le genou par terre, mais on se relève, Dieu nous relève, Dieu est avec nous pour nous fortifier et nous encourager. Et c'est important l'Église, pourquoi? Parce que nous sommes un témoignage pour d'autres. Par exemple, dans la famille, si nous avons une famille, père, mère, nous allons conduire aussi nos enfants à Christ. Et nos enfants qui ont vécu cela peuvent tourner aussi leur cœur vers le Seigneur, et puis eux aussi pourront conduire leurs enfants après, hein, tel que le psaume 78 nous parle de toutes ces générations qui viennent au Seigneur au travers de la foi des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, et toute cette famille est en train d'être entraînée dans cette foi, et ils font des choses peut-être plus grandes que ceux, les grands-parents, etc. Dieu fait des pourquoi pas, Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, je n'en ai faites. Vous ferez des choses plus grandes que moi, j'en ai faites. Alors, c'est merveilleux. Mais si vous abandonnez l'église locale, il y a beaucoup plus de chances pour que les enfants ne suivent pas le Seigneur. Les petits-enfants, arrière-petits-enfants. Voilà. C'est prouvé. Alors, un principe du royaume de Dieu est de porter du fruit. Ça, c'est vraiment important. Porter du fruit. Et nous avons vu trois voies ce matin. Le chrétien efficace porte du fruit par la reconnaissance. On porte du fruit par la reconnaissance. C'est important. Reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Savoir dire merci à Dieu, savoir le remercier pour toute chose. Le chrétien qui porte du fruit, eh bien, il va le faire par la joie du Saint-Esprit. Parce qu'un chrétien triste, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire pour la gloire de Dieu. Hein. C'est beaucoup plus difficile. La joie, c'est une force qui nous conduit à aller de l'avant. La tristesse nous ramène sur nous-mêmes. Alors Dieu veut que nous puissions vraiment regarder au Seigneur afin d'être forts. Le chrétien qui glorifie Dieu, qui porte du fruit, il est fidèle à son église locale. C'est important si nous voulons vraiment porter du fruit et croître dans la grâce. Nous allons prier quelques instants. Seigneur Père, nous voulons vraiment te remercier.